y a des années de cela, on pouvait voir plusieurs navires à la fois faire leur chargement à l'estacade du dock de Londres. Je parle des environs de 1880, du temps où Londres comptait une foule de beaux voiliers dans ses bassins, quoique moins de belles constructions dans ses rues. Les navires à l'estacade avaient belle apparence. Ils étaient amarrés l'un derrière l'autre et le Saphir, le troisième en commençant par le bout, était un tout aussi bon navire que les autres, ni plus ni moins. À l'estacade, chacun d'eux avait naturellement, comme tout navire au bassin, son second à bord. Le policier de service aux portes les reconnaissait tous, sans être pourtant capable de dire immédiatement à quel navire appartenait tel ou tel d'entre eux. En fait, les seconds de tous ces navires amarrés dans les docks de Londres étaient, comme la majorité des officiers de la marine marchande, des gens solides, travailleurs, résolus, peu romantiques d'allure, qui appartenaient à différentes classes de la société, mais chez qui l'empreinte professionnelle effaçait des caractères individuels d'ailleurs très peu marqués. Ceci était vrai de tous, à l'exception toutefois du second du Saphir. Les policemen ne pouvaient avoir la moindre hésitation à son sujet. Celui-là avait une présence. Il le reconnaissait fort de loin, dans la rue, et lorsqu'il suivait l'estacade le matin pour se rendre à son navire, les ouvriers des docks et les débardeurs roulant les balles et les caisses sur leur diable se disaient entre eux « Voilà l'officier noir qui s'amène ». C'était le nom que lui donnaient ces hommes grossiers, incapables d'apprécier à sa juste valeur la dignité d'allure de cet homme. Et l'épithète qu'il lui donnait attestait l'impressionnisme superficiel des ignorants. Il va sans dire que Mr. Bunter, le second du Saphir, n'était pas noir. Il n'était pas plus noir que vous et moi. Et assurément, tout aussi blanc que n'importe quel second dans tout le port de Londres. Il avait cette sorte de teint qui ne se hâle pas facilement, et je savais mieux que personne que le pauvre garçon venait d'être un mois malade, juste avant d'embarquer sur le Saphir. Vous comprendrez par là que je connaissais Bunter, pour sûr que je le connaissais. Et qui plus est, je savais son secret, le secret qui... Mais j'y reviendrai plus tard. Pour en revenir à l'apparence particulière de Bunter, c'était simplement le préjugé de l'ignorance qui faisait dire au chef Harimer, comme je l'entendis un jour, « Je vous parie bien que c'est un étranger ». Un homme peut tout de même bien avoir les cheveux noirs sans qu'on le prenne pour un métèque. Toutefois, c'est seulement lorsque vous en rencontrez un que vous vous remarquez combien les gens à cheveux noirs, comme de l'ébène, sont rares. Il portait également toute sa barbe, taillée mais d'une bonne longueur tout de même, et il avait de gros sourcils en broussaille. Ajoutez à cela des yeux gris-bleus qui, chez un homme blond, n'auraient rien eu d'extraordinaire, mais qui formait avec ce sombre entourage un contraste saisissant. Et vous comprendrez que Bunter pouvait difficilement passer inaperçu. N'eût été la réserve générale de ses manières, ses gestes mesurés, on lui eût attribué une nature farouchement passionnée. Il n'était assurément pas tout jeune. Mais si l'expression « dans la force de l'âge » a un sens, elle s'appliquait exactement à lui. Il était en outre d'assez grande taille et plutôt mince. En l'apercevant du haut de sa dunette infatigablement attentif à sa fonction, le capitaine Ashton du clipper Elsener, amarré juste devant le Saphir, déclara un jour à ses amis «
Jones a déniché quelqu'un pour bousculer son navire à sa place !»
Le capitaine Jones, le patron du Saphir, qui avait commandé des navires depuis de nombreuses années, était bien connu, mais il n'était ni très respecté, ni très aimé. Parmi ses collègues, on s'occupait guère de lui, ou bien on le plaisantait. Le capitaine Ashton, qui était d'un naturel cynique et taquin, ouvrait généralement le feu. Ce fut lui qui se permit la mauvaise plaisanterie d'affirmer un jour, devant d'autres capitaines,
« Jones trouve qu'on aurait empoisonné tous les marins au-dessus de 40 ans, à l'exception des capitaines pourvus d'un commandement. »
Tous se mirent à rire. Et ainsi encouragé, le capitaine Jones finit par esquisser un sourire aigre et tenta de se défendre. C'était bien facile de plaisanter. Mais de nos jours où il faut pour qu'un navire ait quelque rendement aller de l'avant aussi bien en mer que dans le port, la mer n'est pas faite pour les vieux. Quant à lui en tout cas, il ne voulait pas dommager à son bord. À vrai dire, le capitaine Jones ne faisait pas en cela montre d'une grande singularité. À cette époque, quantité de marins auxquels on ne pouvait rien reprocher que de commencer à grisonner, usaient les semelles de leur dernière paire de souliers sur les pavés de la cité à chercher vainement un emploi. Le capitaine Jones ajouta, avec une sorte d'innocente mauvaise humeur, que de là à vouloir empoisonner les gens, il y avait encore de la marge. La réponse semblait décisive. Mais le capitaine Ashton ne voulut pas démordre de sa plaisanterie.
« Oh oui, je suis persuadé que vous le feriez. Vous auriez dit... Vous avez dit exactement inutile. Comment se débarrasser de gens inutiles ? Vous avez bon cœur, Jones. Je suis sûr que si vous preniez le temps d'y réfléchir, vous admettriez qu'on les empoisonne sans douleur. »
Le capitaine Sellers pinça ses lèvres minces et sinueuses.
« Pour en faire des fantômes !»
suggéra-t-il d'un ton caustique. À ce mot de fantôme, le capitaine Jones, intimidé, prit cet air perplexe, sournois et antipathique qui lui était familier. Le capitaine Ashton cligna de l'œil.
« Oui, vous pourriez peut-être alors... Vous auriez une chance de communiquer avec le monde des esprits. Les fantômes des marins doivent sûrement hanter les navires. Il y en aurait sûrement qui viendraient rendre visite à un vieux camarade de bord. »
Le capitaine Sellers déclara sèchement. « Ne lui donnez pas de pareils espoirs, c'est vraiment cruel. Il ne verra rien du tout. Vous savez bien, Jones, que personne n'a jamais vu de fantômes. » À cette intolérable provocation, le capitaine Jones sortit de sa réserve, sans la moindre perplexité, dans un mouvement de crédulité passionnée qui mit une étincelle dans ses petits yeux ordinairement mornes. Il exhiba quantité d'exemples authentifiés. Il y en avait des livres et des livres. C'était pure ignorance que de nier les apparitions surnaturelles. On en publiait des cas tous les mois.
On les a même photographiés. Quelle preuve de plus voulez-vous ?
Le capitaine Jones était indigné. Les lèvres du capitaine Bell se pincèrent, mais Ashton protesta.
Je vous en prie, ne le poussez pas. À propos, Jones, qu'est-ce que c'est que ce pirate chevelu que vous avez maintenant comme second ? Personne dans les docks ne semble l'avoir jamais vu.
Le capitaine Jones, calmé par le changement de conversation, répondit simplement que c'était Willy, le marchand de tabac du coin de Fenchurch Street, qui le lui avait envoyé.
Ah, c'est Willy qui vous l'a envoyé, fit le capitaine Ashton. C'est un garçon qu'on remarque. Si on lui mettait une ceinture rouge autour de la taille et un mouchoir rouge autour de la tête, il aurait tout à fait l'air d'un de ces boucaniers qui faisaient avancer les hommes sur la planche et emmenaient les femmes en captivité. Veillez, Jones, à ce qu'il ne vous coupe pas le cou et ne file pas avec votre saphir. D'où débarque-t-il donc ?
Le capitaine Jones, après avoir levé son habituel regard crédule, fronça les sourcils et déclara placidement que ce garçon avait connu de jours meilleurs et qu'il s'appelait Bunter.
Il a commandé un navire à Liverpool, le Samarie, il y a quelques années. Il l'a perdu dans l'océan Indien et on l'a suspendu de commandement pendant un an. Depuis lors, il n'a pas pu en retrouver un. Il a frappé à toutes les portes des compagnies qui font l'Atlantique.
Ça explique que personne ne le connaisse ici,
déclara en manière de conclusion le capitaine Ashton, tout en se levant de table. Après déjeuner, le capitaine John se rendit au dock. Il était petit et légèrement bancal, son aspect n'inspirait aucune estime à la majorité des gens, mais ses armateurs ne devaient pas être du même avis. Il avait la réputation d'un commandant peu agréable, méticuleux au possible, toujours ruminant un grief, toujours grognant. Ce n'était pas un homme à avoir, une fois pour toutes, une bonne discussion avec les gens, mais à leur dire des choses désagréables d'un ton pleurard. Un homme capable de rendre la vie intenable à un officier, pour peu qu'il le prît en grippe. Ce même soir, j'allais voir Bunter à bord et lui dire ma sympathie à la perspective de son voyage. Il s'était fort assagi. Je suppose qu'un homme qui garde un secret dans son cœur doit perdre de son allant. Et il y avait une autre raison pour laquelle je ne m'attendais pas à ce que Bunter fasse preuve de beaucoup de souplesse d'esprit. Il avait une chose qui le préoccupait depuis beaucoup de temps. Et en outre, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le capitaine Jones avait passé son après-midi à bord et n'avait cessé de tourner autour de son second d'une façon qui avait exaspéré Bunter.
« Qu'est-ce que ça signifie ?»
me demanda-t-il avec irritation.
« On croirait qu'il me soupçonne d'avoir volé quelque chose et qu'il essaye de savoir dans quelle poche je l'ai mis. Ou quelqu'un lui a dit que j'ai une queue de singe et qu'il veut savoir comment je m'arrange pour la dissimuler. Je n'aime pas beaucoup qu'on me regarde ainsi en passant la tête sous mon coude. Je ne trouve pas ça drôle. Je ne suis plus un gamin, sacré nom d'un chien. »
Je l'assurais que si l'on s'en allait raconter au capitaine Jones que lui, Bunter, était équipé d'une queue de singe, Jones s'arrangerait pour le croire de façon mystérieuse. Et en fin de compte, il s'arrêterait à l'opinion la plus mesquine possible et suivrait la ligne de conduite la plus mesquine par une sorte de génie naturel. Puis, sans se départir de son calme habituel, que rendait sinistre le froncement de ses gros sourcils noirs, Bunter reprit.
Et en outre, cet homme est fou. Il a essayé de se montrer sociable et n'a rien trouvé de mieux que de m'ouvrir de grands yeux en me demandant si je croyais aux communications avec l'au-delà. Des communications avec... Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Je ne savais que répondre.
Un sujet des plus graves, Mr. Bunter. J'y ai beaucoup réfléchi.
Si Jones avait vécu à terre, il eût été la victime toute désignée de soi-disant médiums, ou si même il en avait eu la moindre occasion entre deux voyages. Heureusement pour lui, lorsqu'il était en Angleterre, il vivait quelque part, assez loin, à Leytonstone, avec une sœur de 10 ans plus âgée et restée fille, une redoutable virago, 2 fois grande comme lui et devant laquelle il tremblait. Pour elle, ses penchants étaient tout simplement sataniques. Elle avait déclaré, paraît-il, qu'avec l'aide de Dieu, elle l'empêcherait, cet imbécile, de se livrer au démon. Il était hors de doute que l'ambition secrète de Jones était d'entrer en communication directe avec les esprits défunts, pour peu que sa sœur le laissât faire. Bunter était indigné par ce genre de propos, probablement à cause de ses propres morts.
Le toupet de cet homme, entrer en relation avec cette espèce de méchant petit pute d'or, là. Ce serait vraiment une intrusion impudente.
Il veut entrer.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nouvelle sorte de snobisme ou quoi?
Je ne pus me retenir de rire devant cette façon nouvelle d'envisager le spiritisme, ou quelque nom qu'on donne à cet engouement pour les fantômes. Bunter condescendit à sourire, mais ce fut un sourire grave, qui s'effaça rapidement. Un homme dans sa position presque tragique, pour ainsi dire, ne pouvait vraiment pas... Enfin, vous comprenez... Il était vraiment très soucieux. Il était prêt à endurer n'importe quel mauvais tour au cours du voyage. On ne pouvait guère espérer de considération une fois à la merci d'un homme du genre de Jones. Un malheur est un malheur et cela a une fin, mais la pensée de se voir harcelé d'absurdes, de mesquines, de déprimantes histoires de fantômes accommodés à la John, d'un bout à l'autre de la traversée jusqu'à Calcutta et au retour, c'était vraiment une appréhension intolérable. Le spiritisme envisagé sous cet angle devenait en effet un sujet grave, redoutable même. Pauvre garçon. Nous ne pensions guère, lui et moi, qu'avant peu il aurait... Je ne pouvais toutefois le réconforter, j'étais moi-même assez désolé de la chose. Hunter avait eu ce jour-là un autre ennui. Un satané maître de port s'était amené à bord sous on ne sait quel prétexte, mais à ce que pensait Bunter, poussé uniquement par une curiosité malsaine. Malsaine pour Bunter, en fait. Après avoir quelque temps tourné autour du pot, l'homme s'était tout à coup hasardé à dire
« Il me semble bien que je vous ai déjà vu quelque part, monsieur l'officier. Si j'entendais votre nom, peut-être... »
Bunter éprouva une vive inquiétude. Il était très possible que cet homme l'eût déjà vu auparavant, au diable son excellente mémoire. Il coupa court à la remarque en se retournant vers l'homme et en utilisant cette impressionnante sévérité d'expression à laquelle contribuait son extraordinaire couleur de cheveux.
« Je m'appelle Bunter, monsieur. Cela dit-il quelque chose à votre intellect curieux ? Moi, je ne demande pas comment vous vous appelez. Quelqu'un qui vient tranquillement me dire en face qu'il n'est pas sûr de m'avoir vu... cherche à se montrer impudent, ou bien Il n'est rien de plus qu'un simple ver de terre, monsieur, oui. J'ai dit un ver de terre, un misérable ver de terre aveugle. Ce brave Bunter. C'était la seule chose à faire. Il mit littéralement ce type hors du navire, comme si chacune de ses paroles avait été un coup de poing.
Bunter me déclara qu'il était bien heureux que le saphir, cette perle des navires, ainsi qu'il le désignait avec aigreur, prit la mer le lendemain. Il en avait assez, dit Doc. Je comprenais son impatience. Il était cuirassé contre tous les ennuis que ce voyage pourrait lui valoir, même si, à l'évidence, il ne s'attendait guère à la singulière aventure qui lui était réservée, et bel et bien dans l'océan Indien. Cette partie du monde précisément où le pauvre garçon avait en même temps perdu son navire et sa chance, une fois pour toutes, à ce qu'il semblait. En dépit des extravagances de sa jeunesse, Bunter ne s'était pas trompé en se mariant. Il avait épousé une femme d'une très bonne famille, une vraie dame, et qui en outre était une très charmante femme. Quant à son courage, moi qui savais les temps difficiles qu'ils avaient traversés, je ne pouvais l'admirer assez. Ce départ affectait notre officier noir plus qu'aucun de ceux qui l'avaient précédé durant toutes ces années de malchance, mais c'était une femme intrépide et elle laissait paraître moins de trouble sur son charmant visage que ne le fit ce digne boucanier à cheveux noirs qui tenait l'emploi de second au bord du saphir.
Comme ce récit a pour but de relater une expérience de spiritisme qui advient non pas exactement au capitaine Jones lui-même, du moins à son navire, il n'est nul besoin d'insister sur les autres événements du voyage. Ce fut une traversée ordinaire. L'équipage était un équipage ordinaire. Le temps fut un temps habituel. La façon tranquille, posée qu'avait le second de commander la manœuvre avait donné une allure calme à la vie du navire. Même au fort de plusieurs coups de vent, tout se passa calmement, pour ainsi dire. Un seul d'entre eux rendit la vie dure à tout l'équipage pendant 24 bonnes heures. Cela se passa en vue de la côte d'Afrique, une fois doublé le cap de Bonne-Espérance. Au plus fort de la tempête, le navire embarqua quelques paquets de mer sans grand dommage, mais non sans réduire en miettes pas mal d'objets cassables dans l'office et dans les chambres d'officiers. Mr. Bunter avait gagné le respect de tous à bord, mais il se trouva indignement traité par l'Antarctique qui, défonçant la porte de sa chambre comme l'eût fait un voleur, emporta plusieurs objets utiles et inonda les autres. Un peu plus tard, le même jour, l'agitation des mers du sud se mit à faire de telles embardées au saphir que les deux tiroirs placés sous la couchette de Bunter partirent ensemble en éparpillant tout leur contenu. Ils auraient dû, cela va sans dire, être fermés à clé. Et Mr. Bunter ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même de ce qui lui arrivait. Il aurait dû tourner la clé de chacun d'eux avant de sortir sur le pont. Le capitaine Jones éprouva une secrète satisfaction quand il apprit le dommage. À la vérité, il avait peur de son second. Et il aurait beaucoup aimé tenir à sa merci cet officier noir d'une façon ou d'une autre. Mais l'homme était irréprochable. Aussi près qu'il est possible de la perfection absolue. Et le capitaine Jones en était fort ennuyé, tout en se félicitant de l'excellence de son officier. Il fit de grands frais de sociabilité avec lui. En partant de ce principe que plus vous êtes en bon terme avec quelqu'un, plus il vous est facile de le prendre en faute. Et parce qu'il voulait, en outre, avoir un auditeur pour ses récits de manifestations, d'apparitions, de fantômes et autres histoires ineptes de revenants.
« J'aime converser avec mes officiers », avait-il coutume de dire. « Il y a des capitaines qui ouvrent à peine la bouche d'un bout à l'autre d'un voyage, de craindre de perdre un pouce de leur dignité. À quoi cela rime-t-il, au fond, cette petite supériorité qui peut échoir à un homme ?»
Sa sociabilité était surtout à craindre pendant le quart de 6 à 8, car il était de ces gens qui commencent à se réveiller vers le soir, et l'officier de quart pouvait difficilement invoquer une excuse pour quitter la dunette. On voyait le capitaine Jones grimper, alors, tout à coup, la descente du carré, et en trottinant vers le pauvre Bunter en train d'arpenter la dunette, il lui décochait une proposition spirite du genre de celle-ci.
« Les esprits de l'un et l'autre sexe montrent en général beaucoup de raffinement, n'est-ce pas ?»
À quoi Bunter, levant sa tête au favori noir, marmottait comme réponse
« Je ne sais pas. »
« Ah, c'est que vous ne voulez pas savoir. Vous êtes l'homme le plus obstiné et le plus prévenu que j'ai jamais rencontré, Mr. Bunter. Je vous ai dit que vous pouviez emprunter n'importe quel livre dans ma bibliothèque. Vous n'avez qu'à aller dans ma chambre prendre le volume qui vous plaira. »
Et si Bunter protestait qu'il était trop fatigué lorsqu'il n'était pas de quart pour trouver le temps de lire, le capitaine Jones se mettait à sourire d'un air désagréable derrière son dos.
« Je crois décidément, Mr. Bunter, que vous n'avez aucune spiritualité. Voilà le problème. »
On le voyait parfois apparaître sur le pont au milieu de la nuit, avec sa démarche bancale, l'air grotesque dans son pyjama. En l'apercevant, le pauvre Bunter se tordait les mains à la dérobée et une sueur froide lui perlait sur le front. Après être resté quelque temps d'un air somnolent près de l'habitacle à se gratter de façon déplaisante, le capitaine Jones ne manquait pas de reprendre son seul sujet de conversation. Il discourait par exemple sur le progrès moral qu'on pouvait attendre d'un commerce assidu et intime avec les esprits. Les esprits, d'après le capitaine Jones, consentiraient à se lier familièrement avec les vivants. N'était l'incrédulité de la grande masse du genre humain.
L'incrédulité, monsieur, est le mal de notre temps.
Elle s'opposait au témoignage des photographies. Car le capitaine Jones croyait vraiment qu'on avait photographié certains esprits. Il avait lu des articles à ce sujet dans les journaux. Et l'idée qu'on avait pu réaliser pareille chose l'avait grandement impressionné, vu son absence d'esprit critique.
« des photographies !»
répétait-il d'une voix qui grinçait comme un gond rouillé.
« La plaque sensible ne peut tout de même pas mentir, non, monsieur !»
Bunter sut qu'à plusieurs reprises, il avait frôlé la démence, car il ne pouvait s'empêcher d'entrevoir dans un demi-délire le capitaine Jones, saisi par la peau du cou et lancé par-dessus la lisse dans le sillage du navire. Ce qu'aucun marin, jouissant de toutes ses facultés, n'envisagerait de faire à un chat ou à tout autre animal. Il l'imaginait, dansant sur l'eau, petite tache noire qui disparaissait au loin derrière le navire sur l'océan éclairé par la lune. Je ne pense pas que, même au pire moment, Bunter souhaitait réellement noyer le capitaine Jones. Je crois que son imagination désordonnée aspirait simplement à couper court à l'inanité peuplée de fantômes qui caractérisait la conversation du capitaine. C'était tout de même une habitude dangereuse. Imaginez ce navire dans l'océan Indien. Par une claire nuit tropicale, sa voilure pleine et immobile. La bordée de quart sur le pont hors de vue et sur la dunette inondée par la dune. Cet imposant officier noir, arpentant le pont, à pas digne et mesuré, gardant un redoutable silence et suivi de cette silhouette grotesque et minuscule en flanelle rayée, qui parlait d'une voix tour à tour grinçante et bourdonnante, d'intimité par-delà la tombe. J'en ai la chair de poule, rien que d'y penser. Et parfois, la folie du capitaine Jones s'affublait d'un singulier utilitarisme.
Comme ce serait utile si l'on pouvait décider les esprits à prendre un intérêt pratique aux affaires des vivants. Peut-être que des meurtriers insoupçonnés, qu'ils y croient ou non, seraient tentés. Ils n'iraient vraisemblablement pas le crier sur les toits, n'est-ce pas ? Mais pour moi, si jamais quelqu'un m'assassinait, Je ne me laisserai pas en repos. Je le foudroierai, je le terrifierai à mort.
L'idée que le fantôme de son capitaine pourrait terrifier quelqu'un lui parut si absurde que le second, si peu enclin qu'il fût à la gaieté, ne put s'empêcher d'éclater d'un rire là. Et ce rire, qui répondait seul à un long et grave discours, ne fut pas sans froisser le capitaine Jones.
« Que trouvez-vous donc là qui prête à rire de cet air supérieur, Mr. Bunter ?»« Des apparitions surnaturelles en ont terrifié de plus fort que vous. Vous ne me croyez pas assez d'âme pour faire un fantôme. Je parie que vous êtes de ces gens qui ne font pas plus de cas d'un homme que si c'était une bête. Vous seriez capable, j'en suis sûr, de dénier la possession d'une âme immortelle à votre propre père. »
Là-dessus, Bunter, ennuyé au-delà du possible et en outre exaspéré par son propre souci, perdut toute retenue. Marchant soudain sur le capitaine Jones et se penchant un peu pour le regarder bien en face, il lui dit d'une voix basse et ferme
« Vous ne savez pas ce dont un homme comme moi est capable. »
Le capitaine jeta la tête en arrière, sans pouvoir bouger, tant il était suffoqué. Bunter se remit à marcher et pendant un bon moment, son pas régulier et le clapotis de l'eau du bord troublèrent seul le silence qui planait sur la mer. Le capitaine Jones tout sauta d'un air gêné et après s'être rapproché de la descente par mesure de prudence, retrouva assez de courage pour colorer sa retraite d'un acte d'autorité.
Haussez les cargues point tribord de la grand voile et brassez carré, Mr. Bunter. Ne voyez-vous pas que nous sommes presque vent arrière ?
À vos ordres, capitaine,
répondit Bunter. Bien qu'il n'y eût pas la moindre nécessité de brasser et que le vent vint bien du travers. Tandis qu'il exécutait cet ordre, le capitaine John s'arrêta sur les marches de la descente en grommelant entre ses dents.
« Ça vous arpente la dunette comme un amiral et ça ne remarque même pas qu'il faut brasser. »
Assez haut pour que l'homme de barre pût entendre. Le surlendemain au soir, il sommeillait paisiblement sur sa couchette quand un grand coup de poing au-dessus de sa tête, signal convenu pour réclamer sa présence sur le pont, le fit bondir hors du lit, réveillé en sursaut.
« Que se passe-t-il là-haut »
marmonna-t-il en courant pieds nus. En traversant le carré, il regarda la pendule. C'était le second quart.
« Que diable peut bien me vouloir le second ?»
En débouchant brusquement de la descente, il trouva la nuit éclairée par la lune et une forte et bonne brise. Il regarda autour de lui d'un air effaré. Personne sur la dunette, si ce n'est l'homme de barre, qui lui déclara immédiatement
« C'est moi, capitaine, j'ai lâché la barre une seconde pour frapper au-dessus de votre tête. Je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose au second. »
« Où est-il parti ?»
L'homme, visiblement nerveux, répondit
« Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu dégringoler de l'échelle de bâbord de la dunette. »«
Dégringoler de l'échelle de la dunette et pourquoi faire ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»«
Je ne sais pas, capitaine. » Il marchait à bâbord, et juste au moment où il s'est retourné vers moi pour venir sur l'arrière...
Tu l'as vu ?
Oui, je le regardais, et j'ai entendu aussi sa chute, quelque chose de terrible, comme si le grand mât passait par au-dessus. On aurait dit qu'il avait reçu un coup.
Le capitaine Jones manifesta son inquiétude et son trouble.
Voyons, est-ce que quelqu'un lui a donné un coup ? Qu'est-ce que tu as vu ?
Rien, capitaine, ma parole. Il n'y avait rien à voir. Il a tout juste poussé un petit cri. Il a étendu les mains en avant et il a disparu. Patatras ! Comme j'ai plus rien entendu, j'ai lâché la barre une seconde.
Tu es effrayé ?
Pour sûr, capitaine.
Le capitaine Jones le regarda fixement. Il eut l'impression que ce navire silencieux qui poursuivait sa route contenait un danger, un mystère. Il hésitait à aller lui-même à la recherche de son second parmi les ombres de ce pont si calme, si paisible. Il se contenta d'avancer vers l'aplomb de la dunette et d'appeler les hommes de quart. Dès que les hommes, à moitié endormis, se furent rassemblés sur l'arrière, il leur cria avec fureur
« Que quelqu'un d'entre vous aille voir au pied de l'échelle de bâbord de la dunette. Allez voir si le second n'est pas tombé là !»
Des exclamations stupéfaites lui firent immédiatement comprendre qu'il l'y avait trouvé. L'un d'eux cria même d'une voix affolée
« Il est mort !»
«
On étendit Mr. Bunter sur sa couchette. Et une fois la lampe allumée, on vit qu'il avait l'aspect d'un mort, mais qu'à l'évidence, il respirait encore. On avait réveillé le steward et fait prendre le car au lieutenant, et pendant une heure environ, le capitaine John s'employa silencieusement à essayer de faire revenir à lui son second. Mr. Bunter, à la fin, ouvrit les yeux. Mais il se montra incapable de parler. Il était hagard et inerte. Le steward lui banda une assez vilaine blessure sur la tête, tandis que le capitaine Jones tenait une lampe de réserve. Il leur fallut couper une bonne quantité de cheveux noirs de Mr. Bunter pour faire un pansement convenable. Cela fait, et après avoir considéré un moment leur patient, ils sortirent tous deux de la chambre.
« Ton rôle d'affaire, Stewart, hein ?» fit le capitaine une fois dans le couloir.
« Oui, capitaine. »
« Un homme sobre qui a sa tête à lui ne tombe pas du haut d'une échelle de dunettes comme un sac de pommes de terre. Le navire est aussi d'aplomb qu'un billard. »«
Oui, capitaine. Une attaque de je ne sais quoi, ça ne m'étonnerait pas. »«
Moi, ça m'étonnerait. Il n'a pas l'air d'un homme sujet à des attaques ou à des étourdissements, c'est un homme dans la force de l'âge. » Je ne voudrais pas avoir une autre sorte de second, même si j'en connaissais. Vous ne pensez pas qu'il ait de l'alcool en réserve, hein? Il m'a semblé à plusieurs reprises un peu bizarre ces derniers temps. Pas d'appétit non plus, à ce que j'ai remarqué.
Ma foi, capitaine, s'il lui est arrivé d'avoir une ou deux bouteilles d'alcool dans sa chambre, elles ont dû disparaître depuis longtemps. Je l'ai vu jeter du verre cassé par-dessus bord après le dernier grain que nous avons eu. Mais ce n'était pas grand-chose. En tout cas, capitaine, on ne peut pas dire que Mr. Bunter soit un homme qui s'adonne à la boisson.
Non, non, concéda le capitaine d'un air songeur. Il y a là un mystère.
Et le steward s'esquiva adroitement. Le capitaine Jones passa le reste de la nuit et toute la journée suivante à faire la navette entre sa chambre et celle de son second. Dans sa propre chambre, il restait les mains ouvertes sur les genoux, les lèvres serrées et les rides transversales de son front profondément marquées. De temps à autre, levant le bras d'un mouvement pour ainsi dire lent et précautionneux, il grattait légèrement le haut de son crâne chauve. Dans la chambre du second, il resta de longs moments, la main sur les lèvres, à regarder cet homme à demi inconscient. Pendant 3 jours, Mr. Bunter ne prononça pas une seule parole. Il regardait les gens d'un air à peu près sensé, mais ne semblait pas en état d'entendre les questions qu'on lui posait. On lui coupa encore des cheveux et on lui banda la tête avec des linges humides. On put l'alimenter un peu et on lui donna tout le confort possible. Le 4e jour, Mr. Bunter avait l'air décidément mieux, encore très languissant, assurément. Mais il entendait et comprenait ce qu'on lui disait, et il put même prononcer quelques mots d'une voix faible. Le capitaine Jones, en entrant, le considéra attentivement sans manifester beaucoup de sympathie.
« Eh bien, pouvez-vous me dire comment cet accident est arrivé, Mr. Bunter ?»
Bunter remua légèrement sa tête bandée et fixa le regard froid de ses yeux bleus sur le visage du capitaine Jones, comme s'il étudiait et appréciait la valeur de chacun de ses traits. Le front perplexe, les yeux crédules, l'expression stupide de la bouche tombante. Et il le regarda fixement avec tant d'insistance que le capitaine Jones commença à se sentir inquiet et jeta par-dessus son épaule un coup d'œil vers la porte.
« Pas un accident, »
murmura Bunter d'un ton singulier.
« Vous voulez dire que vous avez eu une crise d'épilepsie ?» Comment appelleriez-vous le fait d'embarquer comme second sur un clipper avec une telle maladie ?
Bunter se souleva un peu et, regardant le capitaine Jones droit dans les yeux, il lui dit d'une voix basse mais distincte :
Vous aviez raison.
Il retomba en arrière et ferma les yeux. Le capitaine Jones
n'en put rien obtenir de plus, et comme le steward entrait dans la chambre, le capitaine se retira. Mais ce même soir, subrepticement, le capitaine Jones, ouvrant la porte avec précaution, entra de nouveau dans la chambre du second. Il ne pouvait attendre davantage. L'impatience contenue, l'agitation qu'exprimait toute sa chétive petite personne, n'échappèrent pas au second, étendu tout éveillé sur sa couchette, avec un air terriblement abattu et parfaitement impassible.
« Vous venez vous repaître de ma vue, je suppose ?»
fit Bunter sans bouger, mais ayant manifestement réussi à porter un coup.
« Eh bien, repaissez-vous alors, vous et vos fantômes. Vous êtes venu au bout d'un homme vivant. »
« Cela aussi fut, » dit par Bunter à voix basse et sans beaucoup d'expression.
« Voulez-vous dire que vous avez eu une expérience surnaturelle cette nuit-là ? Vous avez eu une apparition, alors, à bord de mon navire ?»
On aurait pu voir la répugnance, la honte, le dégoût peint sur le visage du pauvre Bunter, si la majeure partie n'en eût été cachée par de l'ouate et des bandages. Ses sourcils d'ébène, plus sinistres que jamais, parmi tout ce linge blanc, se foncèrent, tandis qu'il faisait un violent effort pour dire
« Oui, j'ai vu. »
Son regard malheureux eut éveillé la compassion de tout autre que le capitaine Jones, mais celui-ci était tout à l'exultation de son triomphe.
« Et est-ce qu'il vous a jeté par terre ?»«
Voyons, vous croyez que je suis un homme à me laisser terrasser par un fantôme ? Vous ne vous rappelez donc pas ce que vous m'avez dit vous-même l'autre jour ? Des gens plus forts que moi ? Ah, vous pouvez chercher longtemps avant de trouver un second plus solide que moi pour votre navire. » Le capitaine Jones dirigea un doigt solennel vers la couchette de Bunter.
« Vous avez été terrifié, » dit-il. « C'est bien cela, vous avez été terrifié, ma foi. L'homme de bar lui-même a été épouvanté, quoiqu'il n'ait rien pu voir. Il a senti le surnaturel. Vous êtes bien puni de votre incrédulité, Mr. Bunter. Vous avez été terrifié. »
Et en supposant que je l'ai été, savez-vous ce que j'ai vu ?
Pouvez-vous concevoir le genre de fantôme qui peut tenter un homme comme moi ? Hein ? Pensez-vous que ce soit une de ces apparitions distinguées pour réception d'après-midi qui visitent vos journalistes dont vous ne cessez de parler ? Non, je ne peux pas vous dire à quoi il ressemblait. Chacun de nous a ses fantômes. Vous ne pourriez concevoir.
Bunter s'arrêta à bout de souffle. Et le capitaine Jones déclara d'un ton qui trahissait l'ardeur de son contentement
« J'ai toujours pensé que vous étiez un homme capable de tout, depuis le jeu à pile ou face jusqu'au meurtre prémédité, comme on dit. Bien, bien. Ainsi donc, vous avez été terrifié. »
J'ai reculé. Je ne me rappelle de rien d'autre.
« L'homme de bar m'a dit que vous êtes tombé à la renverse comme si vous aviez reçu un coup. »
C'était une sorte de coup intérieur, quelque chose de trop profond, capitaine, pour que vous puissiez comprendre. Vous et moi, nous n'avons pas eu la même existence. N'êtes-vous pas satisfait de me voir converti ?
Et vous ne pouvez rien me dire de plus ?
Non, je ne le peux pas. Et je ne le voudrais même pas. Cela ne servirait d'ailleurs à rien. Il faut aller jusqu'au bout de cette expérience. Dites que je suis bien puni, eh bien j'accepte la punition. Mais pour en parler, non.
Très bien. Vous n'en parlerez pas, mais sachez que je peux en tirer mes conclusions.
Tirez-en ce que vous voulez, mais prenez garde à ce que vous direz, capitaine. Vous ne me terrifiez pas. Vous n'êtes pas un fantôme.
Un mot. Est-ce que cela a un rapport avec ce que vous m'avez dit ce soir-là, lorsque nous parlions de spiritisme ?
Bunter eut un air las et perplexe.
Mais qu'est-ce que j'ai dit ?
Vous m'avez dit que je ne pouvais pas savoir ce dont un homme comme vous était capable.
Oui, en voilà assez.
Fort bien, je suis fixé alors. Tout ce que je puis dire, c'est que je suis joliment satisfait de ne pas être à votre place. Quoique juste donné je ne sais quoi pour avoir le privilège d'une communication personnelle avec les esprits, oui, monsieur. Mais pas de cette façon.
Le pauvre Bunter murmura d'un ton pitoyable. J'ai l'impression d'avoir vieilli de 20 ans. Le capitaine Jones se retira tranquillement. Il était ravi de voir cet arrogant coquin mis plus bas que terre par l'entremise moralisatrice des esprits. Toute cette affaire devint pour lui
une source d'orgueil et de satisfaction, et il se mit à éprouver une sorte de considération pour son second. Il est juste de dire qu'au cours d'entretiens ultérieurs, Bunter se montra fort doux et déférent. Il semblait se cramponner à son commandant pour en obtenir une protection spirituelle. Il l'envoyait chercher et lui disait
« Ah, je me sens tellement nerveux !»
Et le capitaine Jones demeurait patiemment pendant des heures dans cette petite chambre surchauffée, très fière qu'on fit appel à lui. Car Mr. Bunter demeura malade et ne put quitter sa couchette pendant de longs jours. Il devint un spirit convaincu. Non pas avec enthousiasme, on n'aurait pas pu attendre pareille chose de lui, mais d'une façon lugubre et inébranlable. On ne pouvait pas dire qu'il y ait vraiment de l'amitié pour les habitants désincarnés de notre globe, comme le faisait le capitaine Jones, mais c'était maintenant une solide, encore que bien triste, recrue du spiritisme. Un après-midi, que le navire était déjà fort au nord dans le golfe du Bengale, le steward frappa à la porte de la chambre du capitaine et dit sans l'ouvrir
« Le second demande si vous avez un moment, capitaine, il semble être dans un drôle d'état. »
Le capitaine Jones se leva aussitôt de sa couchette.
« On m'a dit que je viens !»
Serait-il possible qu'une nouvelle manifestation spirite se fût produite, pensa-t-il, et en plein jour encore? Cet espoir l'enchantait. Ce n'était pas exactement cela, à vrai dire. Bunter, pourtant, qu'il vit affalé dans un fauteuil, il s'était levé depuis quelques jours, mais n'était pas encore monté sur le pont. Le pauvre Bunter avait une communication assez étonnante à lui faire. Ses mains lui couvraient la figure. Il avait les jambes allongées, en plein désarroi.
« Qu'y a-t-il de nouveau ?»
s'écria le capitaine Jones, d'un ton plutôt aimable, car, à vrai dire, cela lui faisait toujours plaisir de voir Bunter dompté, comme il disait.
« De nouveau ?» s'écria entre ses mains le sceptique accablé.
« Ah oui, d'assez nouveau, capitaine. Comment nier la terreur, la réalité ? Un autre en serait mort sur place. Vous voulez savoir ce que j'ai vu ? Tout ce que je puis vous dire, c'est que depuis que je l'ai vu, mes cheveux deviennent blancs. » Bunter retira ses mains de devant son visage, qui retombèrent comme mortes de chaque côté de son fauteuil. Il avait un air brisé, dans la pénombre de la cabine.
« Que dites-vous ? Ils deviennent blancs ? Attendez un peu, je vais allumer la lampe. »
Quand la lampe fut allumée, le surprenant phénomène ne fut que trop visible. Comme si la terreur, l'horreur, l'angoisse du surnaturel s'exhalait par les pores de sa peau. Une sorte de brume argentée semblait s'attacher aux joues et à la tête de Bunter. Sa barbe tendue, ses cheveux coupés, ne poussaient pas noir, mais gris, presque blanc. Quand M. Bunter, la figure hâve, flageolant encore sur ses jambes, vint prendre son poste sur le pont, il était complètement rasé et sa tête était blanche. L'équipage fut frappé de stupeur. « C'est un autre homme !» murmurait-il. Il fut généralement et mystérieusement d'accord pour penser que le second avait vu quelque chose, à l'exception toutefois de l'homme qui tenait la barre au moment de l'événement et qui maintenait que le second avait reçu un coup. Cette distinction ne faisait guère de différence. D'un autre côté, chacun s'accorda à reconnaître qu'une fois que le second eut repris ses forces, ses mouvements semblèrent même plus lestes qu'auparavant. Un jour à Calcutta, on entendit le capitaine Jones désignant à un visiteur son second à la tête blanche, debout près de la coupée, déclarer d'un ton d'oracle
« C'est un homme dans la force de l'âge !»
Il va sans dire qu'en l'absence de Mr. Bunter, j'allais rendre visite à Mrs. Bunter régulièrement, chaque samedi. Juste pour voir si elle avait besoin de mes services. C'était une chose entendue. Elle n'avait pour vivre que la demi-solde de son mari, ce qui lui faisait à peu près une livre par semaine. Elle avait loué une chambre qui donnait sur une petite place dans l'East End. Et c'était l'abondance auprès de la vie à laquelle j'avais entendu dire que le ménage avait été réduit pendant quelque temps, lorsque Bunter avait dû quitter le service de l'Atlantique. Il avait embarqué comme second sur toutes sortes de paquebots après avoir perdu à la fois son navire et sa chance. C'était l'abondance comparée à l'époque où Bunter
s'en aller à 7h du matin chercher un emploi sans rien d'autre en fait de petit déjeuner qu'un verre d'eau chaude et qu'un croûton de pain. Un beau jour, l'excellente Mrs. Bunter reçut une lettre d'un homme de loi de la cité, lui annonçant que son oncle était mort, son vieux Grigou d'oncle. Un agent de change retiré, une antiquité pétrifiée et sans entrailles, qui avait traîné pendant des années. Il avait près de 90 ans, je crois. Et si je rencontrais à cet instant son vénérable fantôme, je tâcherais de le prendre à la gorge et de l'étrangler. Ce vieil animal n'avait jamais pardonné à sa nièce d'avoir épousé Bunter. Et bien des années après, quand des gens tenaient à lui faire savoir qu'elle était à Londres et qu'elle mourait presque de faim, à 40 ans, il se contentait de dire « C'est bien fait pour cette petite idiote ». Je pense qu'il voulait la voir mourir de faim. Et ma foi, le vieux cannibale mourut intestat, sans autre parent que la petite idiote en question. Les Bunter étaient désormais des gens riches. Naturellement, Miss Bunter en pleura comme si son cœur allait se rompre. De toute autre femme, c'eût été simple hypocrisie. Il se passa juste 100 jours avant qu'un paquebot qui y rentrait eût signalé tout bien à bord du Saphir à l'entrée de la Manche. « Je vais aller au-devant de lui à Dunkerque, » me dit-elle. Le Saphir avait un chargement de jute pour Dunkerque. Bien entendu, il me fallut escorter cette dame en qualité d'ingénieuse amie. Après avoir installé Mrs. Bunter dans un bon hôtel de Dunkerque, je m'en allai au bassin. Il était tard dans l'après-midi. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir le navire déjà amarré. Vous pouvez imaginer le choc que j'eus en apercevant sa tête blanche. Je pus simplement lui dire que sa femme était à l'hôtel. Il me quitta aussitôt pour aller prendre son chapeau à bord. Je fus fort surpris de l'aisance de son allure lorsqu'il se précipita pour grimper le passavant. Alors que le second, à cheveux noirs, frappait les gens comme quelqu'un d'allure posée et singulièrement majestueuse, pour un homme dans la force de l'âge, cet officier à cheveux blancs semblait le plus extraordinairement alerte des vieillards. Je ne suppose pas que Bunter fût vraiment plus vif sur ses quilles qu'il ne l'était auparavant. C'était la couleur de ses cheveux qui faisait toute la différence aux yeux des gens. Je l'accompagnais sans retard jusqu'au petit salon où l'attendait Mrs. Bunter. Après qu'elle eut versé un pleur sur le défunt cannibale et serré son cher mari dans ses bras et lui avoir dit qu'il devait laisser repousser sa moustache, l'excellente dame se nicha sur le canapé et je laissai le champ libre à Bunter. Il se mit à arpenter la pièce aussitôt, en agitant ses longs bras. Et il s'échauffa presque jusqu'à la frénésie et déchira à belles dents le capitaine Jones à maintes reprises au cours de la soirée. Dégringolé, bien sûr que j'ai dégringolé en glissant à reculons sur les plaques de cuivre de cet imbécile. Ma parole, j'arpentais cette dunette et je ne savais si j'étais dans l'océan Indien ou dans la Lune. Je devenais fou. La tête me tournait véritablement d'inquiétude. J'avais fait ma dernière application de l'excellent produit de votre pharmacien. Ceci s'adressait à moi. Toutes les bouteilles que vous m'aviez remises avaient été réduites en miettes. Quand ces tiroirs ont dégringolé pendant la dernière tempête, j'étais allé chercher des vêtements secs pour me changer quand j'ai entendu crier « Tout le monde sur le pont !» Et je n'avais fait qu'un bond sans penser à repousser convenablement ces tiroirs. Idiot ! Quand je suis revenu et que j'ai vu les bouteilles cassées, et tous en dessus-dessous, j'ai cru me trouver mal. Non, voyez-vous, ce n'est pas bien de tromper les gens. Mais de ne pas pouvoir continuer à le faire quand on a été obligé de commencer. Vous savez, depuis que j'avais été évincé des paquebots faisant l'Atlantique par des gens plus jeunes, uniquement à cause de ma tête grisonnante, vous savez quelle chance j'avais de retrouver jamais un navire et personne à qui se confier. Nous étions un couple isolé, elle et moi. Elle a tout quitté pour moi. Et l'avoir manqué de pain. Il donna un coup de poing
à fendre la table de l'hôtelier français. J'en serais arrivé à me faire pirate pour elle, obligé que j'étais d'obtenir un emploi par subterfuge en me teignant les cheveux. Aussi, quand vous m'avez procuré cette merveilleuse lotion de votre pharmacien, à propos, cet homme-là fera une fortune quand il voudra. C'est d'excellente qualité. Vous pouvez lui dire que l'eau salée même n'y fait rien. Ça dure autant que les cheveux. Là-dessus, il s'en reprit à Jones avec une fureur qui épouvanta sa femme et me fit rire aux larmes. Essayez seulement d'imaginer ce que c'eût été de se voir à la merci de l'individu le plus mesquin qui ait jamais commandé un navire. Imaginez seulement la vie que m'aurait fait cet ignoble Jones, là. Et je savais qu'au bout d'une semaine à peu près, on commencerait à voir mes cheveux blancs. Et l'équipage, avez-vous pensé à ça? Se montrer à tout l'équipage comme un imposteur. Mais quelle vie pour moi, jusqu'à Calcutta. Et une fois là-bas naturellement, expédié. La solde suspendue, Annie toute seule ici, sans un sou, mourant de faim. Et moi, de l'autre côté de la terre, idem, vous voyez cela d'ici? J'avais bien pensé à me raser deux fois par jour, mais je pouvais tout de même pas me raser la tête. Rien à faire, absolument rien à faire, à moins de passer Jones par-dessus bord et encore. Et tenez-vous donc qu'avec tout ce bouillonnement dans ma tête, je n'ai pas su où je posais les pieds cette nuit-là. Je me suis tout juste senti dégringoler, puis un grand fracas et tout a disparu. Quand je suis revenu à moi, j'ai eu l'impression que le coup sur ma tête m'avait en quelque sorte raffermi les esprits. J'ai été tellement dégoûté de tout pendant deux jours que je n'ai voulu parler à personne. Ils ont pensé que j'avais une commotion cérébrale. C'est alors que cette idée s'est éveillée en moi. Pendant que je regardais cet imbécile obsédé par les fantômes. Ah, tu aimes les fantômes? Eh bien, tu vas avoir quelque chose de l'au-delà. Je ne me donnais même pas la peine d'inventer une histoire. Je ne pourrais pas en inventer un fantôme, même si je le voulais. Je n'étais pas en état de faire un mensonge qui se tint, si même j'avais essayé. Je l'ai juste fait marcher dans cette direction. Savez-vous qu'au fond, de lui, il avait l'idée que j'avais dû assassiner quelqu'un et que... Oh, quel homme abominable ! S'écria Mrs. Punter du fond du canapé, et il y eut un silence. Est-ce qu'il a pu m'assommer pendant le voyage de retour ? Il m'aimait, il était fier de moi. J'étais converti, j'avais eu une manifestation. Savez-vous ce qu'il voulait ? Il voulait que lui et moi nous fissions une séance, comme il dit, pour tenter de faire apparaître ce fantôme, celui qui m'avait rendu les cheveux blancs, le fantôme de ma prétendue victime, et comme il disait, s'expliquer avec lui, le fantôme, de façon amicale.
« Sinon, Bunter, me disait-il, vous aurez peut-être encore une manifestation au moment où vous y attendrez le moins, et vous passerez peut-être par-dessus bord ou quelque chose de ce genre. Vous n'êtes pas vraiment à l'abri tant que... nous n'aurons pas, d'une façon ou d'une autre, pacifié le monde des esprits.
Vous imaginez un cinglé de cette espèce? Non mais, dites-moi. Je ne répondis rien. Mais Mrs. Bunter déclara à son mari d'un ton très décidé, « Je ne veux pas que tu remettes jamais les pieds à bord de ce navire, ma chère, » dit-il. « J'ai encore tous mes effets à bord. Tu n'as pas besoin de ces effets, n'approche plus de ce navire !» Il demeura immobile. Puis baissa les yeux, esquissant un vague sourire.
« Le navire hanté, »
fit-il lentement d'une voix rêveuse. « Et le dernier pour vous, » ajoutai-je. Nous l'emmenâmes, sans plus attendre, par le train de nuit. Il était très calme, mais en traversant le détroit, comme nous fumions tous les deux un cigare sur le pont, il se tourna tout à coup vers moi et murmura les dents serrées.
Il ne sera jamais comme il a été prêt d'être jeté par-dessus bord.
Il pensait au capitaine Jones. Je ne répondis pas. Mais le capitaine Jones, à ce que j'appris, fit toute une histoire de la disparition de son second. Il mit sur pied toute la police française. Il voulait qu'on draguât le bassin pour retrouver le corps. À la fin, il dut probablement recevoir... un mot des armateurs le priant de cesser toute cette agitation, lui disant que tout était en règle. Je suppose qu'il n'a jamais rien dû y comprendre.
aujourd'hui encore. Il essaye parfois. Il est retraité maintenant. Et sa conversation n'est pas très cohérente. Il essaye de vous raconter l'histoire d'un officier noir qu'il a eu jadis. Un redoutable coquin aux airs de gentleman, avec une chevelure noire, comme du jais, qui est devenue soudainement blanche à la suite d'une manifestation de l'au-delà. Une apparition vengeresse. Il est bien difficile de s'y reconnaître au milieu de ces allusions aux cheveux noirs et blancs, aux échelles de dunettes, et à ses sentiments et à ses idées. Tout cela n'a ni queue ni tête. Et si sa sœur, elle est encore vigoureuse, se trouve là, elle coupe court de façon péremptoire. Ne faites pas attention à ce qu'il dit. Il a des démons plein la tête.
Soul. A portion of eagle and a portion of mole. One soars in the sunlight, one snores in a hole.
C'était L'Officier Noir de Joseph Conrad, lu par Grégoire Mont-Saint-Jean. Composition musicale, John Greaves. Interprété par Scott Taylor, Laurent Valero et John Greaves. Équipe technique, Xavier Lévesque et Claire Levasseur. Réalisation, Christophe Hoquet, assisté de Clémence Gross. L'Officier Noir de Joseph Conrad, traduit par Georges Jean Aubry et publié chez Gallimard dans la collection Quarto.